Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, un épisode hors série. Vous connaissez maintenant le principe, un jeudi sur deux avec le vrai Sold Out, si j'ose dire. On fait une incartade dans les métiers de la musique enregistrée, et cette fois, c'est des hors-séries sur les consacrés aux métiers du management, de management d'artistes. Et cette idée géniale, c'est Daniel Fendikian qui l'a eu. Salut Daniel.
Salut Marc.
Bienvenue ici, Daniel qui est le boss de l'EMIC, l'école de management des industries créatives. Et l'EMIC est partenaire de ce podcast, et Daniel est un expert et m'accompagne parce que moi, je connais bien les métiers du live, mais moins les métiers de la musique enregistrée. Daniel, on reçoit qui aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, on reçoit Olivier Mathieu et Mathieu Couturier, les fondateurs et dirigeants de Grand Management. Le management d'artiste, c'est un métier qui est souvent méconnu du grand public. On a voulu recevoir Olivier et Mathieu pour qu'ils nous expliquent leur métier.
Bonjour voilà. Les gars, bonjour.
Bonjour.
Salut.
Merci beaucoup d'être là. Donc aujourd'hui, c'est un truc particulier. On ne fait jamais ça normalement dans Sold Out, puisque vous êtes deux. Vous êtes tous à deux, si je comprends bien.
Oui, et ouais, depuis pas mal de temps maintenant.
C'est la magie de cette histoire.
Tout à l'heure, je vous ai vu boire un café tout seul, chacun séparément.
Ouais. Et tu verras, on se coupe rarement la parole. Ah, bien l'habitude.
Ouais. Ah, génial. Eh ben, écoute, on va faire ça bien. Donc, qui est Olivier ? Qui est Mathieu ?
Alors, je suis Olivier Mathieu.
Et je suis Mathieu Couturier, l'associé d'Olivier Mathieu.
Eh bien, bienvenue dans cet épisode de Sold Out, hors série, qui commence maintenant.
Est-ce que tout est prêt ?
Oui, monsieur le directeur.
Bon, alors je vais faire commencer.
On parle d'artistes, on parle de développement de carrière, on parle de partenariat, on parle d'appels en pleine nuit ou pas.
Vous faites ce métier pour le plaisir ou pour l'argent ?
On parle de conseil, on parle de conseiller, on parle d'accompagnement.
On parle d'humain, non ?
De temps à autre, il me faisait signer des papiers auxquels je ne comprenais rien.
Sold Out.
Sold Out.
Le podcast de Delight.
Le podcast de Delight.
Bonjour, je suis Mathieu Couturier et je suis le président de Grande Music Group.
Bonjour, je suis Olivier Mathieu et je suis directeur général de Grand Music Group.
Premier artiste managé.
Alors pour moi, c'est un groupe de rap qui s'appelle Triptych et qui était un groupe actif à la fin des années 90 et au début des années 2000.
Et moi, premier groupe managé, c'est le premier groupe qui m'a lancé dans la vie d'indépendant et c'est le groupe Revolver, qui est un groupe de folk, pop, acoustique, trio de chanteurs harmonie vocaux.
Dernier artiste manager, le tout dernier.
On verra.
Ah, secret ?
Non, il y en a plein. Oh, actuellement, on représente. Je crois qu'on a fait. On a regardé notre roster dans les yeux récemment et on a 81 clients dans l'agence en représentation.
Ouais.
Donc, vous dire quel serait le dernier, c'est. Je ne sais pas, ce serait mettre un terme à une activité qui est loin d'être finie. Donc,
mais quand je dis le dernier, c'est le dernier qui a signé.
Ah, Eddie De Preto ?
Ouais, le dernier album sorti en même temps.
Ouais, dernier album sorti et je pense dernière signature en management.
Sold Out, saison 5, hors série numéro 4, consacré au métier du management avec Mathieu Couturier et Olivier Mathieu, les boss de Grand Management, une boîte de management très moderne qu'on adore, qui travaille notamment avec Eddie De Preto, Kill Ismaël, L'Homme Pâle, Bonnie Banane et Superpose, enregistré dans les bureaux de Delight à la toute fin de l'année 2023. Alors, bon, pour commencer, est-ce qu'il faut faire des études pour travailler dans le management ? Vous avez fait quoi comme études, en vrai ?
J'ai fait des études, ne sachant pas que je travaillerais dans le management, mais j'ai fait des études de management. En l'occurrence, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait ça dans un cheminement scolaire sans avoir... en sachant toujours que je voulais... en ayant la vocation de travailler dans la musique et dans l'industrie de la musique depuis l'adolescence. Après, c'est un peu un hasard, j'avais pas un plan précis. À l'époque, il n'y avait pas d'école pour la musique comme l'EMIC, en l'occurrence.
Ok, alors je crois que tu commences chez Chronowax en stage, c'est ça ?
J'ai travaillé d'abord chez un disquaire à New York qui s'appelle Fat Beats, et à la fin des années 90, et après j'ai rejoint Chronowax pour faire mes deux stages en école de commerce, effectivement.
Et après, donc V2 ?
Après, j'étais embauché chez V2 comme chef de projet. V2 était l'actionnaire majoritaire de Chronowax. Il y avait un lien entre les... Donc, c'était un peu une suite de ce parcours scolaire.
V2, c'était un autre label de Virgin, non, c'est ça ?
V2, c'est le deuxième label de Branson qui avait monté Virgin après qu'il ait vendu Virgin à EMI. Donc, j'ai travaillé chez V2, puis chez Pias France, puis chez Universal Music, où j'ai travaillé dans les labels ULM, puis Mercury, quand l'ULM a fusionné
avec
Mercury.
Pourquoi tu quittes Universal ? Alors,
j'ai monté en 2005 un label indépendant qui s'appelle Disprimer. C'était une activité que j'avais à côté de mon activité salariée chez Universal. J'ai 30 ans en 2010, je me pose la question d'aller au bout de cette aventure entrepreneuriale, de je me sens plus d'avoir une double vie et d'une petite schizophrénie de cette double activité, je décide un peu sur un coup de tête d'aller au bout de la vie de Disprimer.
Qu'est-ce que tu as appris durant toutes ces années en fait d'école de commerce puis de label derrière, ce qui est un début de carrière assez classique en fait hein, pour des gens qui ont envie de bosser dans la musique. De la frustration peut-être ou au contraire de l'enthousiasme?
Non, pas de frustration, pas de regrets, pas de remords. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à me professionnaliser. J'ai appris ce que c'était qu'un artiste. J'ai appris tout. J'ai appris à dépenser de l'argent. J'ai appris à savoir à quoi ça servait. J'ai appris à comprendre comment on vendait des disques, quelles étaient les chaînes des métiers. J'ai énormément appris. J'ai fait plein d'erreurs aussi.
Ah ouais, tu te souviens d'une erreur en particulier?
La liste est trop longue et c'est trop humiliant. Mais mais on apprend en se trompant, on apprend et j'ai beaucoup appris. Je me suis beaucoup trompé.
Est-ce que les bases de grand management sont nées là?
Probablement. Oui.
On va passer peut-être à Olivier.
Oui, parce que c'est un parcours très différent.
Ouais. Vas-y, raconte-nous, Olivier,
alors,
ton parcours qui est très différent.
Succinctement, moi, je suis musicien à fond, ado, musicien sans avoir vraiment de plan du tout de carrière, ayant des facilités en sciences. Rapidement, je me dis que pour mes parents, c'est cool que je fasse ingénieur du son ou un métier d'ingénieur. Donc, je pars sur la filière ingénieur en faisant de la musique à côté, en étant DJ à côté, en montant en studio à côté avec des potes. Et en ayant toujours un peu cette envie de faire mes trucs moi-même, mais en ayant aussi conscience que j'ai tout à apprendre dans le métier. Et en fait, par un pur hasard, je me retrouve en stage dans une maison d'édition major chez BMG Publishing. Et où là, finalement, le fait d'être musicien et un peu agile, on va dire, en maths, m'a fait m'intégrer hyper rapidement dans un métier que je connaissais pas et que j'ai appris en le faisant. Chez BMG Publishing d'abord en France, après je suis parti un an pour finir mes études et avoir un diplôme d'acousticien à Stockholm. Donc j'ai travaillé chez BMG en Suède pendant un an et où je me suis retrouvé à être à moitié gestionnaire de catalogue français parce que j'étais le français du bureau et en mixant le soir et en travaillant avec des Suédois artistes signés chez BMG dans leur micro-studio de la vieille ville de Stockholm. Et de fil en aiguille, j'ai passé un an à finaliser mon diplôme, me faire un réseau. Et le développement de mon boulot chez BMG Suède m'a été recommandé et reporté en France et je me suis retrouvé à bosser chez BMG France. Et
ce qui est génial, c'est qu'on sent que tu as d'un côté la légitimité du son, quoi, de ton diplôme d'acousticien, de la production et en même temps du business.
Ouais, et c'est un truc qui me suit tout le temps. Ouais. En gros, c'est vraiment, j'ai jamais appliqué directement tout ce que je apprenais et voulais faire, mais c'est que ça fait partie du bagage qu'on a chacun et qui m'a tout le temps accompagné. Donc, ça doit apporter une sorte de confiance en soi là-dessus, mais le truc, c'est que le principal, c'était d'avancer, d'aimer ce qu'on faisait en avançant, quoi.
Et vous êtes très complémentaires, puisque tu as un vrai savoir-faire de studio et de publishing. Mathieu, de studio et surtout de label et de musique enregistrée. Donc, vous êtes très complémentaires.
Complètement.
Quand est-ce que vous décidez de vous associer? Quand est-ce que...
Et surtout, comment vous vous rencontrez?
Ouais. D'où est née cette idée de...
Alors, la rencontre, elle est au début de nos carrières. On travaille je travaille chez V2 sur une compilation qui s'appelle le Nouvel Rock'n'Roll Français, que Jean-Baptiste Guillot, fondateur de Born Bad Records, et dont il était l'initiateur.
Qu'on salue.
Et qui fait partie de l'origine, carrément, de la vie de Grand dans l'origine. Mais qui est... Il y a un groupe qui s'appelle Fancy sur ce projet. Olivier en est
l'éditeur
chez BMG. Et moi, je me lie vachement avec le groupe et je les signe sur Disprimer, mon label à l'époque que j'ai remonté. Donc, je sors un disque de Fancy dont Olivier est l'éditeur.
Ouais, et moi, je me retrouve à collaborer avec Mathieu en tant que label indépendant et pas comme chef de projet chez V2.
Là-dessus, oui, on a à peu près le même âge, on est de la même génération. Il y a vraiment ce truc de...
Quel âge?
Moi, j'ai 44 ans.
À l'époque?
À l'époque, on a 25 ans.
Je dis ça parce que je pense aux gens qui nous écoutent.
On avait 24-25 et c'est vraiment, on a de la même génération, donc on s'est croisés. Enfin, je me rappelle quand même avoir revu Mathieu dans des très très beaux bar pro de festival et avec l'âge qu'on avait, on était les derniers à chaque fois à finir les soirées et on se retrouvait souvent comme ça en fait. Et j'ai connu Mathieu surtout comme ça plus qu'en bossant.
Ouais, en fait, on avait à part ça, on était on s'est juste recroisé dans la vie sur des bars de festival. Et je quitte Universal en 2010, toi t'avais quitté en 2008 Universal, ouais. Tu manages Revolver, moi je commence à justement faire un switch vers l'indépendance, où on retourne à des déj, on sait un peu, raconte-moi comment tu fais pour être un déj, je me souviens qu'on se voit un peu comme ça, et la genèse de Grand, elle vient donc de... Je manage un groupe qui s'appelle Château Marmont, Olivier manage Revolver. Les deux groupes sont à South by Southwest à Austin en 2011, ou 2010, premier South by Southwest à 2010. On se retrouve là-bas, on se croise. Ah, t'es là, je suis là, cool, viens, on va boire un verre, viens, on va faire un barbecue ensemble. Et là, on commence à discuter et on se rend compte qu'en fait, on a vraiment des choses à se dire, qu'on fait un peu les mêmes... qu'on s'oriente vers le même métier sans le savoir. Olivier est éditeur, moi je suis producteur, j'ai un label.
C'est quoi un éditeur ? Parce que pour les gens de Sold Out qui écoutent Sold Out, c'est pas forcément clair.
En gros, le métier principal de l'éditeur, c'est d'exploiter les œuvres, les droits d'auteur, de les administrer, de s'assurer qu'ils soient bien administrés, de les gérer et de les
valoriser.
Les valoriser, les faire fructifier.
Ouais, de les faire travailler et de les récolter et de les redistribuer.
Et ça, Olivier, c'était ton job à toi ?
C'était mon job chez BMG et que j'ai continué à faire en quittant BMG en 2008, du coup, et en signant Revolver. Je me suis retrouvé à être manager, mais en éditant le groupe. En fait, ça a été ma fonction première.
Pour la faire courte, et c'est vachement important pour la suite de ce qu'on fait, c'est qu'on commence à l'un et l'autre à aller vers le management et à assumer d'être manager, avec nos réflexes de nos vies professionnelles d'avant, et qu'on est l'un et l'autre. Moi, je l'aborde par le spectre du label et Olivier par le spectre de l'édition. Et c'est un usage qui est hyper classique à l'époque. Les managers, on est rarement manager à temps plein et c'est toujours un complément d'un autre métier. Et en fait, on constate qu'on en est là et c'est quelque chose qu'on revendique, en tout cas qui est important. Et on est des enfants, on est des ados des années 90. Et on a toujours été un peu biberonné et impressionné par la culture américaine et l'entertainment américain. Et on voit à cette époque une avance de maboule des managers anglo-saxons, en tout cas. Et en plus, dans ce contexte, pour l'anecdote qui est toujours un peu romantique et marrant, mais quand tu étais à Austin, à South by Southwest, tu te prends, petit français, la démo du professionnalisme anglo-saxon. Ouais. Et donc, dans ce contexte-là, on est peut-être un peu galvanisé par l'environnement et tout. Et on se dit, mais attends... Management. Il se trouve qu'on rentre à Paris, on se revoit, on se recroise. Moi, j'occupe un bureau que je sous-loue dans une boîte qui ne peut plus m'accueillir parce qu'ils doivent mettre leurs propres salariés dans la boîte. Donc, et Olivier a un bureau et m'accueille.
Moi, j'avais monté une boîte de prod audiovisuel aussi, genre bien entrepreneur, comme j'avais quand même envie de faire des trucs. J'avais monté une boîte de prod audiovisuel avec deux potes. Et donc on avait des bureaux assez grands, mais moi j'étais clairement le bras musique du trio avec mes associés. Et en se revoyant avec Mathieu, on a débriefé effectivement de notre rencontre aux US et notre débrief de notre aventure respective aux US avec nos groupes. Et en discutant, on a vu qu'on avait clairement les mêmes besoins, les mêmes manques. Et du coup, je lui ai effectivement proposé de venir s'installer dans les bureaux.
Et donc, ça naît un peu d'une coloc. Et le constat, c'est très vite aussi de se dire « Waouh, c'est tellement plus cool à deux. » Et on se rend compte qu'on bosse bien ensemble.
Et justement, c'était ma question avant de parler du modèle grand management. Tout à l'heure, je plaisantais avec cette histoire de café et vous êtes toujours à deux. C'est vrai que, par exemple, on attendait un et les deux sont venus aujourd'hui. Et c'est bien mieux. C'est génial parce que c'est vous. Mais est-ce qu'en vrai, vous faites tout à deux ou est-ce que vous vous séparez des missions ou est-ce que vous êtes vachement souvent ensemble en fait.
Je sais pas l'expliquer.
Mais c'est vachement ensemble.
On a développé une intuition. Au début, on a évidemment tout fait à deux, le temps qu'on se comprenne vraiment l'un et l'autre. Et je pense que là, maintenant, on a une intuition de respectivement s'attribuer les tâches, mais sans en parler.
Ouais, on peut en parler des heures, mais effectivement, il y a un truc de couple qui est un peu particulier. C'est des choses d'ailleurs dont on ne se parle pas. Enfin, j'en parle parce que c'est...
Je comprends.
C'est pas un truc qu'on analyse trop parce que ça serait cassé. Je pense que ça casserait le truc.
Tu sais, c'est ce que... Ouais.
Tu faisais, Olivier, la réflexion, on se coupe pas la parole, et c'est vrai, mais on s'est coupé la parole un an et demi non-stop, et on était là, genre, bon, maintenant, on arrête, et maintenant, on a un truc de... Il est à ma gauche, je sais ce qu'il va dire, il sait ce que je vais dire, on se connaît par cœur. Tu nous demandais donc quand c'est venu. Donc il y a cette... je vais au bout de la genèse. On voit qu'il y a une bonne dynamique qui s'installe. Et là, on a nos deux groupes, toujours Château Marmont et Revolver. Et on voit qu'on a des intérêts à export, une logique de développement export pour les deux groupes qui commencent à converger. Et donc, on organise une tournée ensemble. En fait, de retour de South by Southwest, on se dit on y retourne. Et là, on monte une grosse tournée des deux groupes ensemble.
En co-headline à deux.
Aux États-Unis et, au Canada, enfin en Amérique du Nord. Et on part, je crois que c'était 28 dates en 30 jours, un truc... un gros pataquès pour ce niveau de développement. Et la tournée se passe plutôt bien. On arrive à vraiment trouver les financements, tout. Ce qu'on n'aurait pas été capable de faire seul. Et je pense qu'on on a réussi aussi à s'entraîner l'un l'autre, à aller plus loin que ce qu'on aurait fait seul. Peut-être un peu de manière déraisonnable et folle, parce que clairement, le costard était un peu trop gros sur cette tournée, je pense.
On le sait.
Pour l'anecdote, on le sait, et les deux groupes ont splitté à la fin de la tournée, mais nous, on a monté une belle boîte de management.
Monté, ouais,
donc on leur doit, merci.
Ça a accouché d'une belle boîte de management.
À vous, merci.
Sold Out. Le podcast de Delight.
Le podcast de Delight.
Alors d'ailleurs, c'est assez génial parce que de penser que Grand est né finalement aux États-Unis. Et pourquoi on a décidé de vous accueillir aujourd'hui? C'est que pour moi, vous êtes Grand Management, c'est parmi les boîtes les plus proches du modèle américain de management d'artistes. Et ça devient vraiment central dans le développement d'artistes. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un peu votre vision du management moderne?
Ce modèle américain dont parle Daniel, c'est quoi?
En gros, c'était le constat qu'on a fait, comme disait Mathieu, quand on se retrouve à des festivals comme South by Southwest, que nous, on arrive avec nos petites têtes de Frenchie parisiens, avec nos petits groupes et notre flèche d'or et nos petits tremplins de développement, avec ensuite nos subs et notre plan de carrière éditeur, tourneur, producteur. On arrive dans un monde où c'est des super marques qui sont construites en DIY from scratch et où on se retrouve... En do it yourself.
Ouais, faut que tu nous expliques ça?
Oui, en gros, c'est qu'il y a une culture de. Il y a un marché aussi qui fait que cette culture-là a pu se développer beaucoup plus facilement là-bas à cette époque-là, mais c'est que les groupes se prenaient en main dès le début sans se poser la question de comment. Qui va pouvoir m'aider à faire les choses?
Ils n'ont pas besoin de label, ils se démerdent quoi.
Ils se démerdent avant tout, ils font des choses et ensuite ils se développent et en fait deviennent des marques qui à ce moment-là signent. Et donc nous, on arrive et on voit des énormes deals qui arrivent sur des jeunes groupes et des jeunes marques, mais qui sont déjà installés dans le territoire entier. Et on se dit, mais pourquoi on fait pas comme ça en France et pourquoi on est obligé d'avoir un tourneur, un éditeur?
Oui, parce que ce qui se passe en France à ce moment-là, c'est exactement ce que tu es en train de dire, c'est que l'artiste, en fait, il est pas du tout dans ce modèle américain.
Oui, et on est dans un contexte au début des années 2010 où en France, on voit arriver des groupes comme, à l'époque, c'est 1995,
Stromae,
Lescope, Section d'Assaut, C2C, on voit une génération d'artistes qui arrive très développé et on voit qu'il y a un début de shift sur le rapport des groupes et qui arrive très développé en maison de disque et où le développement n'est pas fait par le label. Le groupe arrive déjà développé
en amont.
Et on voit les débuts d'une tendance qui est le marché d'aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on s'explique maintenant. On n'avait pas autant, on n'était pas aussi lucide que ça. Le post-rationalise, on n'y voyait pas aussi clair. Juste, on a suivi instinctivement l'ère du temps dans laquelle on était. En fait, cette époque-là, c'est le tout début du stream et les réseaux sociaux, la logique de l'autopromotion qui commence à arriver à maturité. Donc, on voit que l'autonomie des groupes aussi évolue beaucoup. Et nous, on se rend compte que les groupes qu'on manage, l'agence qu'on monte, on commence à être dans cette réalité-là et qu'effectivement, les marchés anglo-saxons ont un peu d'avance sur nous là-dessus.
Pour enfoncer le clou, en fait, avant, tout ça se passait dans un label. L'artiste était en quelque sorte, je mets plein de guillemets, mais salarié du label, finalement. Et finalement, aujourd'hui, à l'exemple de Stromae et sa boîte Mozart, qui est l'anagramme de Stromae, il fait tout dans son coin et derrière, il va avoir le label qui distribue seulement.
Exactement.
Et donc, vous, en fait, vous jouez ce rôle de méta Mozart, en fait.
Exactement.
Vous êtes dans ce que maintenant les médias appellent, même si c'est un peu tarte à la crème, l'artiste entrepreneur. Vous avez débuté ça bien avant que ce terme apparaisse.
C'est le moment où le terme apparaît. Voilà, grosso modo, c'est le truc qu'on a ça à la bouche tout le temps. L'agence, on ne la 2010. Crée pas. Donc ça, c'est ce qu'on est devenu et c'est ce qu'on est. Et c'est ce qu'on a construit. Je le redis, on l'a rationalisé en le faisant et ça s'est fait en par itération et dans l'action. Et on ne démarre pas forcément avec ce plan. En fait, on démarre, pour revenir aussi sur la genèse, la décision de monter grand, ça s'est fait un jour de pluie dans la Clio d'Olivier, garée en double file à République.
Ouais.
Vraiment, en se disant...
meilleur bureau de Paris.
Ouais, bon, ben là, vas-y, on le fait. Et c'est plus un truc de on le fait, quoi. Et c'est mieux à deux, point. Et ça part comme ça, en fait.
Et en revenant, pareil, en analyse de poste, Voulez-vous Tour, il s'appelait le Voulez-vous Tour, le groupe, le tour qu'on a monté avec Revolver et Château Marmont. En analyse de ça, c'était qu'en fait, ensemble, effectivement, ce que disait Mathieu, on arrive à faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire seul. Et surtout, je pense que mutuellement, on s'est apporté une folie qui nous a débridé mutuellement. Ça fait qu'on arrive à faire des trucs un peu fous et ça me branchait beaucoup.
C'est-à-dire que séparément, vous êtes sages, mais ensemble, vous êtes fous.
Pas sages, mais on est... pas hyper...
Si on doit parler de l'analyse de couple, j'étais hyper décontenancé parce que tu as formulé ça il y a pas longtemps, je sais plus avec qui. Tu as dit, ouais, c'est le mec un peu fou. En parlant de moi, tu as dit, ouais, c'est le mec un peu fou qui m'emmène sur le truc. Et moi, j'avais toujours ce sentiment. Je me suis dit, ben non, c'est toi. Et en fait, je trouvais ça tellement... Et je crois que je te l'ai dit, mais j'étais genre, mais non, c'est toi qui me fais faire toutes les conneries du monde.
Mais en fait, c'est la recette peut-être de votre boîte.
C'est génial. C'est un peu ça.
C'est cette stimulation... qui fait qu'on à deux, on s'autorise des trucs qu'on ne s'autorisait pas à l'époque.
Et je me rappelle aussi que le marché était quand même hyper tristoun et qu'on se disait, putain, si on bosse dans la musique... Pardon, j'ai dit putain, tu couperas mon montage. Mais que, putain, si on bosse dans la musique, c'est pour se marrer. Et qu'on était là, genre, si on n'y arrive pas ensemble en se marrant, on fait autre chose.
Parce qu'on peut le rappeler, quand même, pour les auditeurs de Sold Out, vous commencez à travailler sur cette idée en 2010, vous créez Grand en 2013. Et donc, on est encore dans la crise de ce qu'on appelle la crise du disque, puisqu'on sort de la crise du disque vers 2015-2016. Donc, vous êtes complètement dans cette mouvance.
Oui. Oui,
on
est en plein dedans. Nous, et je reviens aussi, on doit parler de la crise, nous, on est donc des enfants, enfin, on n'est plus des enfants, mais on arrive dans l'industrie de la musique au pic de la crise. Donc, on s'est formé au début, en tout cas, même quand on monte grand, on n'a connu que l'amorosité.
Ce modèle, comment est-ce qu'on le caractérise? Parce que moi, je ne sais pas, j'ai entendu parler de 360, d'artist services, de facilitateurs de business. Et je ne vous cache pas que moi, je suis spécialisé dans le live et pas dans la musique. Et je ne suis pas sûr de bien comprendre. Vous nous racontez ça?
C'est simple. Mais pour parler du modèle, c'est plus ce qu'on est aujourd'hui.
Ouais.
Raconter ce qu'on est aujourd'hui. Nous, on est la boîte de management des artistes qui n'ont pas de label.
La boîte de management des artistes qui n'ont pas de label.
Les managers des artistes qui n'ont pas de label. Okay. Je peux le raconter. Je pense que c'est ce qui résume le truc. Résumé. Le temps a fait qu'on a compris que notre fonctionnement et notre organisation, parce qu'on est deux là à parler, mais maintenant, on est... et je parlais de Grand Musique Group. Si on ne doit pas se connaître, c'est qu'on est un groupe. Il y a plusieurs sociétés dans notre groupe. Le groupe représente une trentaine de salariés aujourd'hui et l'activité de management d'artistes représente 16 salariés. Mmh. La moitié de notre groupe.
Ils sont splittés en trois équipes, hein, c'est ça?
Oui. Juste, on est donc une boîte de management et le constat, c'est quand je dis qu'on est les managers des artistes sans label, on a pensé notre management en intégrant beaucoup de services et qui sont les métiers. En fait, le constat aujourd'hui, c'est que la question de l'IP, de la propriété, a bougé, a été remise en question. On peut passer beaucoup de temps à expliquer pourquoi et s'expliquer pourquoi.
À qui appartiennent les droits des chansons?
À qui appartiennent les droits? Et en gros, on est dans un monde où les artistes peuvent revendiquer de plus en plus ce droit ou en tout cas ont la capacité
de le garder.
Notre choix, c'est de s'occuper des artistes qui ont fait le choix de garder leur master.
Et aussi leurs éditions.
Capacité à produire leur tournée. D'être au contrôle au maximum de l'IP. C'est un peu... Je tiens à rester là-dessus parce que c'est le sens large de la propriété.
IP, on peut préciser.
C'est
intellectual
property. Voilà. Donc, c'est tout l'actif que sont les œuvres.
Et ce n'est pas vous qui les piquez chez Grand Management, vous prenez juste une commission de 15%. Nous, l'artiste reste maître de tout.
Exactement. Ouais. Ce qui est fondamental et ce qui est peut-être important même pour la suite, c'est qu'en fait, on est une boîte de services. Et notre économie, c'est qu'on est une boîte de services. Et traditionnellement, on est dans une industrie qui était sur une économie de l'actif, du patrimoine, l'acquisition de droits. Et les métiers étaient financés par cette économie du droit. Nous, je pense que le contexte dans lequel on évolue fait que la question de l'IP s'est déplacée et se et
de nouveau et de proche nouveau, et du talent de nouveau, l'artiste.
En tout cas, peut se rapprocher du talent. Ce n'est pas une règle fondamentale, c'est une option. C'est, c'est quelque chose qui s'offre à l'artiste, un choix. Et nous, il y a un moment, quand dans un des choix stratégiques, on s'est dit, on peut pas. Il faut savoir qui on est, ce qu'on fait. Nous, notre choix, c'est de s'occuper des artistes qui font le choix d'être sur leur IP. Donc, en gros, les métiers. Ma conviction, c'est que les métiers, ils n'ont pas vraiment changé. On intègre dans l'activité de management et dans notre service de management les mêmes métiers qui peuvent être ceux d'un label, qui sont des équipes de marketing, de coordination de promo, quand je parle de marketing, c'est l'animation de la vente, de toute la commercialisation autour d'un projet, avec la philosophie de se dire que l'économie d'un artiste, elle est globale et que l'intérêt, nous, on voit qu'il y a une vertu à n'avoir qu'un seul intérêt, c'est celui de l'artiste et de sa carrière, et que le tour, le disque, le merchandising, l'éventuel bouquin, participation à un film, quel que soit le mouvement de la vie, de la carrière de l'artiste, on le suit et en fait, on a une seule pensée, une seule intelligence. C'est ça. Donc l'idée, c'est de reconcentrer les équipes l'ensemble de la carrière.
Ça va jusqu'à la direction artistique ? Le nouvel album d'Eddie De Pretto, sa cover, par exemple, il y a quelqu'un chez vous qui a eu son mot à dire ?
C'est l'artiste qui a son mot à dire. Ouais. C'est
de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement.
On est hyper impliqué.
Qui est propre à chaque profil d'humain. En fait, on s'occupe d'humains. Donc, on a des carrières artistiques et qui font de la musique, de la photo, du cinéma et plein d'autres choses. Et effectivement, on s'adapte souvent. On est un socle, donc en gros, de développement. Et on s'adapte aux besoins de l'artiste. Et souvent, évidemment, l'étincelle, c'est eux qui l'ont et la vision, c'est eux qui l'apportent. Mais on est là pour combler les manquements, les doutes, les besoins.
Et il y a trois verticales de métiers qui sont fondamentales et qui bougeront jamais, je pense, tant qu'il y aura des créateurs et du public des deux côtés. C'est qu'il y a un accompagnement, en fait, il y a une verticale de business et administrative et qui est vraiment tout l'accompagnement légal, financier, juridique. Il y a un accompagnement créatif et un accompagnement marketing, promo, exploitation, d'exploitation et diffusion. Et le créatif et l'exploitation sont... Enfin, les trois interagissent et on est dans un monde où, de toute façon, créatif et exploitation sont fondamentalement liés.
Moi, j'avais toujours une image du manager comme étant celui que l'artiste pouvait appeler à 3 heures du matin en disant « En ce moment, j'ai pas de talent, je me sens pas bien, je déprime. » Est-ce que chez Grand, où il y a ces verticales, où c'est très organisé, qui est une boîte donc de service, est-ce que vous... c'est horrible presque ce que je veux dire, mais est-ce que vous offrez ce service-là ? Ou est-ce que c'est pas du tout un service ? Ou est-ce que c'est un truc à côté ? Enfin,
c'est une infime partie de ce qu'on fait et je trouve que c'est toujours... Alors ça... Moi, j'ai toujours combattu contre... Et je sais que c'est l'impression
c'est
quand...
C'est pour ça que je pose la question. Hein.
Quand je dis que je fais ça, les gens, mon métier, notre métier de manager, les gens imaginent ça. Et aussi, moi, j'ai toujours lutté contre le cliché de la question du babysitting. Ouais. Je trouve ça extrêmement rabaissant et réduisant. Et je pense que c'est prendre les artistes pour moins qu'ils ne sont. Et que, justement, on travaille dans un... Si on fait ce métier, c'est que je pense qu'on a une admiration et un amour fort pour ce métier-là et qu'on est là pour ça. Et moi, je n'ai pas le sentiment de travailler avec des gens qui ont besoin de m'appeler à 3h du matin pour me faire part de leur crise d'angoisse.
Mais moi, j'ai rencontré plein d'autres managers et pourtant, ils me disent que ça arrive.
Ouais, bah c'est...
ça dépend.
Ils fassent bien leur
boulot. Ça dépend de la relation que tu installes aussi avec ton...
Et votre vision
ton artiste.
De faire du management.
Ouais, parce qu'on sait, on a toujours refusé d'être le secrétaire ou tenir la guitare ou commander le taxi. Mais en gros, c'est plus un travail d'ensemble et c'est du respect aussi qu'on développe avec les artistes avec qui on travaille. Et c'est plus un rôle global de... On veut surtout pas les infantiliser, on veut les éduquer et leur apprendre à comprendre leur métier et l'écosystème dans lequel ils se développent.
Et si on est au point d'un appel en cours d'une insomnie dans la nuit, c'est que le travail est mal fait, en fait.
Ouais, je comprends très bien. Mais c'est génial, votre réponse, elle est parfaite. Hein. Non, j'avais juste besoin, en fait, mais je posais aussi la question pour savoir si auprès de l'artiste, il y avait besoin d'une personne qui ait plus un rôle humain et à côté d'un rôle purement business et organisé en vertical, comme vous l'avez décrit, ou est-ce qu'au fond, si le boulot est bien fait, il n'y a pas besoin de cette personne ?
Non, c'était plus ça, ma question. Mais il y a ce travail-là. Il est difficilement rationalisable et je pense que c'est le cas de n'importe quel professionnel et il y a toujours besoin d'une oreille. un artiste ou même nous entre pros, on trouve l'oreille avec chez quelqu'un, c'est quelque chose qui est mouvant en plus, qui peut se déplacer dans le temps. En tout cas, nous, dans notre approche et notre organisation, on tient à rappeler, il y a une posture peut-être dans la réponse qu'on t'apporte, mais c'est que évidemment que ce travail-là fait partie de notre travail, mais c'est pas notre travail, ça fait partie du travail. On n'est pas SOS Amitié, on n'est pas SOS Détresse, on est des professionnels, c'est un métier, c'est de la technique, on couvre énormément de choses, et le management aujourd'hui, c'est pas un copain qu'on paye 15%.
Sold Out.
Sold Out, le podcast de Delight.
Alors, on va parler de l'avenir, mais pour moi, ce que j'observe, c'est que l'avenir, c'est déjà aujourd'hui, puisque vous êtes déjà diversifié. Donc, peut-être expliquez-nous comment vous voyez votre diversification, votre développement. Manager des talents, ça peut aussi, j'imagine, vouloir dire manager des comédiens, des sportifs. Est-ce que c'est ça, la diversification ? Vous venez de créer Arc. Voilà, un magasin de Wi-Fi, un magasin de repair aussi, un record shop. Expliquez-nous tout ça.
On a 10 ans aujourd'hui et ça fait 10 ans en gros qu'on s'est concentré sur un modèle qui est maintenant vertueux et qui marche bien de représentation de talent et de créateur. Et ça, pour nous, c'est l'amont de l'histoire. Et on reste, nous, si on a monté ça aussi, c'est qu'on est nous-mêmes public et on est, nous, encore passionnés par... on adore encore acheter des disques et s'intéresser à du matos et qu'on a encore cette flamme d'ado et de trucs. Et moi, il y a quelque chose qui me tient hyper à cœur, c'est qu'on parlait des métiers des trois piliers et il y a quand même deux fondamentaux, c'est les créateurs et le public. Et que moi, pour moi, dans une logique de groupe et tout, c'est que c'est super maintenant de commencer à s'intéresser à avoir une vraie proposition, essayer de proposer quelque chose à notre sauce, qui nous ressemble, en tout cas, qu'on se retrouve dans une proposition qui s'adresse directement au public. Tout ce qui est au milieu, ça nous intéresse moins.
Alors, pourquoi pas une salle de concert pour le public ? Pourquoi pas
un café ? On est dans Sold Out, il faut parler du live aussi. Salle de concert un jour, racheter un festival, est-ce que ça pourrait aller jusque-là ?
On verra.
Tout est possible.
Tout est possible, en fait.
On est suffisamment...
En fait, tu nous as donné la grille de lecture. D'un côté, les artistes et le contenu. De l'autre côté, s'adresser au public. Ce qui, entre les deux, vous intéresse pas trop.
Exactement.
Donc, finalement, vous interdisez rien.
À partir de là, on verra ce qui... Il nous reste 25 ans à bosser. On verra où ça nous emmènera. En gros, devenir un acteur indépendant, ce qui est plus fort aujourd'hui, ce qu'expliquait Olivier, je pense qu'on est une boîte... On est parti du management et en gros... Là, c'est une réflexion entrepreneuriale et globale. C'est que la musique telle qu'on la voit et quand on réfléchit à ça, l'enjeu, l'énorme enjeu retail des 10 dernières années, ça a été le stream. Et c'est quelque chose qui a contribué à re-euphoriser l'industrie dans laquelle on évolue. On a grandi dans une crise. On a vu aussi une sortie de crise grâce à ça. Et c'est le sujet. C'est le sujet, c'est le truc. Et nous... C'est le sujet, mais en fait, est-ce que c'est ça qu'on a apporté dans cette industrie ? Je ne sais pas. Ce sujet, il est extrêmement bien traité par les gros labels. Il y a les sujets industriels. Nous, ce n'est pas notre combat. Et en fait, la question, elle était de se dire, OK, en fait, qu'est-ce qu'on apporte ? Ça veut dire quoi, être un acteur dans la musique aujourd'hui ? Et c'est là qu'on a commencé à penser retail. On s'est dit déjà, on a... apporter notre petite pierre à l'édifice sur un truc d'organisation pour les créateurs et pour les artistes et une boîte de services pour les artistes. Et le retail, en gros, nous, on s'est posé la question de nous, passionnés, c'est peut-être lié à la crise de la quarantaine. Moi, j'ai beaucoup lié ça à ces réflexions, mais c'est quoi ? Pourquoi on est toujours aussi passionnés à 40 piges par, on a la même flamme que quand on en avait 16 ? Et en vrai, la musique, c'est de se dire, OK, bah moi, je suis un énorme consommateur de vinyle dans ma vie. Olivier, il collectionne les instruments. On a chacun nos petites fêlures là-dessus et le matériel. Et en vrai, c'est ça, la musique. On s'est dit, en fait, consommer de la musique, c'est aussi... je sais que Daniel, on a cette passion commune, c'est les lectures, c'est les livres sur la musique. C'est qu'il ne s'agit pas que de playlists, de stream, en fait. C'est que c'est un truc qui est hyper large. Et donc, c'était ce petit... On a la chance d'investir dans un projet, de passer à l'action là-dessus. C'est ce qu'on veut proposer en faisant ça.
Mais moi, je trouve ça hyper beau parce que je découvre ça en vous rencontrant. Parce qu'en fait, vous prenez quelque part, vous arrivez à générer plein de business dans le monde du streaming et dans le monde digital. Et vous transformez cet argent en investissement pour l'amener dans le monde concret et amener du bonheur à des gens qui vont acheter un disque.
Ouais. En gros, en tout cas, on essaie de... Je crois que ce qui nous excite, c'est qu'on fait... En fait, on fait les trucs dont on a besoin. Mmh. Tu vois ce que je... Enfin, mmh, on pense ouais. Nos projets. Moi, c'est quoi le magasin dont je rêve ? C'est le vieux campeur de la musique. Eh ben, viens, on le fait.
Et c'est un peu le best-of de ce qu'on a pu... expliquer jusque-là, c'est qu'en gros, on a grandi sur quand même une culture anglo-saxonne. On a pas mal passé de temps aux États-Unis. On a énormément kiffé consommer là-bas. Et en fait, d'essayer de transposer la consommation de la culture en France, ça a été un aussi moteur excitant. Et je pense aussi ce qui nous marque là maintenant, nous, jeunes Quadra, c'est qu'on se retrouve à pouvoir transmettre une culture aux jeunes artistes qu'on se retrouve à manager, où on voit qu'il y a une transmission de culture à faire. Quoi.
Et bah voilà, tu m'amènes vers la dernière question rituelle de Sold Out.
Ouais.
Et alors, ce n'est pas seulement pour les jeunes artistes, hein, c'est pour les jeunes gens tout court. Mm-hmm. Quelle est la place que vous réservez aux plus jeunes, aux gens qui sortent de l'EMIC, aux gens qui n'ont pas forcément de diplôme, aux gens qui adorent ce milieu ? Est-ce qu'ils ont de la place ? Est-ce qu'il faut qu'ils y aillent ? Est-ce qu'on a besoin de... Enfin voilà, quoi, est-ce que la musique que c'est trop dur et faut pas y aller. Enfin, vous proposez quoi ? Vous donnez quoi comme
quel conseil à un jeune qui a 25 ans aujourd'hui qui veut être manager d'artiste ?
Ben, d'être sûr qu'il est passionné par ce métier-là. C'est qu'une affaire de passion, que ça va être, et comme n'importe quel métier, ça va être énormément de travail, énormément de sacrifices, énormément de c'est pas facile tous les jours. Mais c'est super à partir du moment où ça te passionne.
Ouais, je pense que ça passe par une conviction de ce travail avec les artistes qui est merveilleuse. Mais tu sais pas que t'es manager avant de vraiment l'avoir fait. Hein. Donc c'est une école.
Et justement, tiens, est-ce qu'on peut être manager en sortant de l'école ? Est-ce qu'à 25 ans, t'es légitime quand t'as un diplôme ? C'est pas une question d'âge ?
C'est une question. Et l'expérience t'enrichira.
Ouais, tu seras pas très bon, mais tu peux complètement être manager et apprendre sur le terrain. En fait, enfin, nous, c'est comme ça qu'on a...
De toute façon, oui, c'est quelque chose qui est important. La formation, elle est essentielle, elle est structurante. Elle te forme pas à être manager. Elle t'aide.
Elle
contribue. Et il n'y a pas de... Enfin, vous avez compris, on a... Et parfois, peut-être de manière déraisonnable ou un peu tard, mais ça nous réussit, mais c'est... si on a un conseil à donner, c'est faites les trucs, réfléchissez pas trop et allez-y. Quoi.
Do it.
Bah voilà, on reste là-dessus. On arrête là-dessus. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup de votre arrêté au métro de Soyouz. Merci Daniel. Et à la prochaine fois dans 15 jours pour le prochain hors série.
Merci Marc.